Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. Épisode 8. La spoliation et l'effacement de la famille Lévy à la Flèche. Je vais vous raconter l'histoire de la famille Lévy, une famille fléchoise qui possédait deux magasins à la Flèche, au goût moderne aux 6 grandes rues, le palais du vêtement aux 35 grandes rues, et le vêtement moderne, 25 rue Carnot, à Sablé-sur-Sarthe. Il résidait aux 6 grandes rues à la Flèche. La famille Lévy représente les 75% de familles juives résidant sur le territoire français et qui n'ont pas été déportées. Ces familles qui ont échappé à la déportation n'ont pas d'histoire. Elles n'ont pas été recensées comme victimes. Pourtant, elles ont vécu les spoliations de leurs biens matériels, les interdictions de travailler, l'interdiction des lieux publics, d'aller à l'école, la mise sous tutelle bancaire, le port obligatoire de l'étoile jaune, l'interdiction d'avoir un poste de TSF pour télégraphie sans fil, le nom que l'on donnait alors à la radio. La liste des interdictions n'est pas exhaustive. Les atteintes à l'intégrité symbolique, telles que le port de l'étoile jaune et l'interdiction par ordonnance du 13 août 1941 de posséder un appareil de TSF, peuvent sembler relativement anodines, mais elles participent au processus qui, petit à petit, réduit inexorablement les libertés des Juifs de France et plus particulièrement des Juifs de zones occupées. En effet, ces interdictions n'arrivent pas tout en même temps et mettent les victimes en état de sidération. Louis Lévy a remis son poste de TSF à la mairie de La Flèche le 9 septembre 1941. Lui ôter son poste de TSF, c'était lui ôter un nouveau média, un moyen de s'informer et de se divertir qui existait à l'époque. Noël Curant, directeur général de l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, a affirmé à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le 13 février 2023, « Lorsque les pays tournent le dos à la démocratie, les gouvernements autoritaires, les autocrates, où qu'ils soient, considèrent les médias de service public, une information digne de confiance et le journalisme indépendant comme des menaces. L'histoire nous l'a prouvé. » Et nous le constatons encore aujourd'hui. Je vais vous lire des extraits des pages que j'ai consacrées à la famille Lévy, dans mon récit « Il ne faudra plus raconter des histoires », le livre de Jean, 1942-1945, « Un enfant dans les camps », publié en avril 2025 chez L'Harmattan. Il y a des fantômes qui l'accompagnent depuis des mois et qui attendent sagement qu'elle les révèle à la lumière dans la transparence des lieux où ils ont vécu. Sandrine découvre dans un journal local l'existence, à deux pas de chez elle, de la famille Lévy, au moment où ce journal rend hommage à son père, Jean Veille, décédé le mercredi 20 janvier 2021. Ce sont des homonymes partiels qui ressemblent à ses grands-parents. Ils ont vécu la même trajectoire, la fuite pendant la Seconde Guerre mondiale, la perte de leur appartement, de leurs biens mobiliers et immobiliers, de leur statut, de tout ce qui constitue un être humain, sa place dans la société. Ils en ont été dépossédés par les lois de Vichy. Rien ne leur appartenait plus, pas même leur vie. Ils ont habité aux 6 grandes rues à la Flèche, au premier étage, au-dessus de leur magasin, et même en pleine ville, ils ne seraient plus protégés et on les traquerait comme des rats. Les Lévy, Veille, Cannes s'étaient cachés. Comment avait-il survécu sans pouvoir travailler, sans existence civique? Était-il revenu à la flèche? Avait-il récupéré leurs biens sans devoir intenter un procès? Ils ne sont plus là aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de leur présence. Il ne reste que deux immeubles cossus. Il n'y a pas de mémorial pour eux puisque toute la famille s'était cachée et avait survécu et puis avait quitté les lieux sans laisser de traces. Sandrine découvre un site qui se nomme les déportés juifs de la Sarthe, qui s'appuie sur les archives départementales et sur lequel sont recensés aussi les juifs non déportés. Louise Veil, une des filles Lévy, est morte en Belgique dans les années 90. Sandrine se souvient que la rumeur disait que Jean Veil était belge. Cela les faisait rire. Ils ne voyaient pas le rapport. Mais c'était peut-être ça, l'autre famille Lévy-Veil qui était partie en Belgique. Alors pourquoi revenaient-ils, ceux-là? Ce n'était pas chez eux. Ils ne pouvaient pas rester. Sandrine Veil pensait que les fantômes l'avaient appelée. « Raconte, ma chérie, raconte. » Sandrine avait passé plusieurs jours à faire des recherches sur Louis Lévy et ses filles Louise Veil et Suzanne Kahn. Ils étaient français et vivaient à Lille ou à Troyes, au moins jusqu'en 1937. En 1936, Louise Veil a une fille, Annie. Elle naît à Lille. Jacques, son fils, naît le 21 septembre 1939 à La Flèche. En 1937, Suzanne Kahn a d'abord une fille, Françoise, à Troyes. Claude naît le 7 décembre 1940 à La Flèche. Autour de 1938, la famille Lévy, Veil, Kahn s'installe à La Flèche et vit aux six grandes rues. Avant, le père, ses filles et ses beaux-fils vivent séparés. Louis Lévy est né en 1875 à Saint-Mémy-les-Chalons. En 1938, il a 63 ans. Sa femme, Jeanne, la mère de ses filles, a 56 ans. Ils achètent deux magasins à La Flèche, qu'ils tiennent chacun de leur côté, au Goût moderne aux 6 grandes rues et le Palais du vêtement aux 35 grandes rues. Qu'est-ce qui pousse la famille Lévy, Veil, Kahn à quitter sa région natale? Se demande Sandrine. La guerre. Roger Kahn, leur beau-fils, est prisonnier de guerre. L'antisémitisme. La date du premier jugement de l'affaire Dreyfus, c'est 1894. Heureux comme un juif en France, sonne de manière ironique. Mais où aller? Louis Lévy décide de se réfugier à La Flèche, avec ses filles et ses petits-enfants. Le 17 octobre 1941, la famille est recensée israélite. C'est la loi. Le 24 décembre 1940, joyeux Noël, le président de la Chambre de commerce établit la liste des commerces juifs à maintenir. Le 13 août 1941, le poste de radio de Louis est confisqué. Le maire de La Flèche lui-même vérifie. Le 3 septembre 1941, ces commerces sont arianisés, c'est-à-dire confisqués et volés. Le 15 septembre 1941, la famille s'installe au hameau du Petit Versailles. En 1942, chaque membre de la famille reçoit 3 étoiles juives. Le 14 octobre 1943, le maire de Saint-Germain-du-Val écrit que la famille juive a quitté son domicile de son plein gré sans avertir ni la gendarmerie ni la mairie. Plus loin, il suppose la date de départ, mardi 12 octobre, soit 2 jours avant son courrier. Il a bien fait son travail, on ne peut rien lui reprocher. Sandrine pense à ses arrière-grands-parents, Lévy et Veil. Ils ont aussi fui en zone libre. Louis Lévy a sauvé sa famille. Ils ont tout perdu, mais ils ne seront pas recensés au mémorial de la Shoah, comme son grand-père, Marcel Veil, seulement prisonnier de guerre, mari et père d'enfants déportés, dont une fille morte. Pas de mémorial. Elle avait passé sa journée à chercher une image du 35 Grandes Rues. Elle voulait voir à quoi ressemblait le magasin. Elle avait trouvé une carte postale colorisée, prise au carrefour depuis la rue Grolier. Devant la vitrine, il y a 3 femmes, 2 adultes et une petite fille. Elle semble captivée par la vitrine du 35. Ce n'était pas encore le palais du vêtement. Les Lévis n'étaient pas encore là. Les Juifs n'étaient que de passage. et il possédait tous les magasins de vêtements. Ces deux phrases contradictoires et illogiques lui avaient été dites par un type qu'il avait observé et interrogé, tandis qu'elle prenait des photographies du même coin de rue. L'immeuble de droite n'avait quasiment pas changé. C'était le même balcon en fer forgé, et en dessous, une boutique qui faisait l'angle aux 33 grandes rues. Cela semblait être une quincaillerie. Elle avait été remplacée par une autre boutique, comme toutes les quincailleries qui avaient disparu. L'immeuble du 35 avait, quant à lui, subi de gros changements. C'était très curieux. Elle ne se l'expliquait pas. On pouvait ne pas le reconnaître et croire être ailleurs, au mauvais endroit. Quelqu'un avait posté une carte postale du 35 et La Poste avait apposé un tampon à 15h30, le 21 octobre. De quelle année ? Sandrine observait sur la photo les vêtements de la multitude des personnages qui vaquaient dans la rue et elle n'était pas capable d'en préciser une époque. Il y avait beaucoup de femmes dans la rue, avait-elle observé. Aujourd'hui, il n'y avait plus personne. Au retour, dans l'autre sens, elle avait pris une autre photo pour imiter l'autre carte postale. Il y avait un type qui l'observait, collé contre une vitrine. Heureusement, elle ne l'avait vu qu'au moment du montage où elle avait associé les deux immeubles et cherché à faire disparaître les gens des images. Celui-là, elle l'avait laissé. Il rajoutait de l'inquiétude à ces rues vides, quelque chose qui voulait dire l'effacement, les fantômes du 6 et du 35. La culpabilité peut-être. Qu'est-ce qui avait arrêté ce type ? C'était certainement l'incongruité de voir une femme seule dans la rue qui prenait des photographies des immeubles. Les gendarmes aussi s'étaient arrêtés dans leur véhicule derrière elle et ils l'observaient. Puis ils avaient redémarré et l'avaient dépassé lentement. Ses clés dépassaient et pendaient de sa poche. Elle tenait son appareil photo à la main. Elle avait hésité à prendre en photo la voiture des gendarmes, mais elle ne l'avait pas fait. Elle ne savait pas si c'était la crainte qu'ils s'arrêtent et la verbalisent. Ce n'était pourtant pas interdit de prendre des photographies dans la rue. Les cartes postales qu'elle avait trouvées sur la toile internet montraient des rues du centre-ville. Mais elle donnait à voir aussi des personnes qui visiblement posaient et regardaient l'objectif. Ces photographies devenaient ensuite des cartes postales. Les gens écrivaient quelques mots au dos et parfois même sur la photographie et puis les envoyaient. « Je vous envoie à la librairie où je suis », avait écrit une main anonyme sur une carte postale représentant la librairie du 25 rue du Collège. Sur le pas de la porte, les libraires, assez jeunes, une femme et un homme posaient. Ils avaient tous les deux les mains dans le dos, le menton légèrement levé. La femme portait une sorte de tablier ouvragé blanc sur une longue robe foncée. L'homme portait une redingote, un gilet et une cravate. L'ensemble semblait usé et fatigué. « Je vous envoie à la librairie où je suis. » Il y avait quelque chose de beau et d'enfantin dans cette expression. « Je vous envoie à la librairie. » Elle avait pensé alors à Modiano, à Dora Bruder. Dora Bruder avait hanté Patrick Modiano comme les Lévis de la Flèche hantaient Sandrine Veil de Paris, pour les mêmes raisons. Patrick Modiano avait été appelé par le fantôme de Dora Bruder, comme Sandrine cherchait depuis longtemps la trace des Lévis Veil. Elle n'avait pas vraiment eu besoin de chercher. Ils étaient venus à elle tandis que son père disparaissait. Elle avait toujours pensé que c'était une expression curieuse pour parler de la mort, et puis elle avait changé d'avis. Les disparus pouvaient réapparaître à tout moment, et cette idée lui plaisait. Et les Lévis Veil étaient apparus dans un journal qui rendait hommage à son père. Un homme restait dans la mémoire. Des oubliés refaisaient surface à côté de chez elle, dans le prolongement de sa rue, une rue qui traversait la Flèche, une ancienne voie romaine. Pourquoi les Lévis avaient-ils quitté l'île pour la Flèche ? Pourquoi s'étaient-ils installés à la Flèche aux alentours de 1939 ? Qui connaissait-il dans cette ville où plus personne ne se souvenait d'eux ? Elle avait posé la question à ses voisins. Ils possédaient tous les magasins de vêtements dans la rue, tous. Et ces commerces marchaient très bien. Mais ça, c'était après la guerre. Ses voisins disaient n'importe quoi. Les Lévy n'étaient pas revenus vivre là, après-guerre. En 1939, Jeanne Lévy est modiste, fabricante ou marchande de chapeaux. Elle tient le commerce du 6 Grande Rue, au goût moderne. Son magasin est fermé le 3 juillet 1941, sur ordre de la préfecture du Mans. C'est le début de l'été, sans doute le troisième été à la flèche. L'administrateur provisoire, M. Marquis, est nommé le 24 décembre 1940. Sandrine est certaine que Louis, Jeanne et les enfants fêtaient Noël et la naissance de Jésus comme Odette et Marcel Veil, ses grands-parents. Cette fois, ils ne fêtent pas Noël. Ils regardent depuis les fenêtres du 6, la place Henri IV et sa statue silencieuse qui trône en son centre. Ils espéraient vivre sous la protection du bon roi. Il reste encore un espoir. Cet espoir, c'est Mademoiselle Dufour. C'est une amie de Jeanne. Sandrine revoit le visage d'ange de Sarah Dufour, une de ses anciennes élèves. Elle lui avait demandé pourquoi elle s'appelait Sarah, la princesse en hébreu. Il y avait une chaleur qui irradiait de cet enfant, qu'elle ne s'expliquait pas. Une enfant soleil. C'est certainement la grand-mère de Sarah, Mademoiselle Dufour, une blonde aux yeux bleus comme sa petite fille, une amie très chère de Jeanne, la modiste, qui veut racheter le magasin et prétend l'arianiser. Mais elle n'a pas beaucoup d'argent et ne connaît rien au métier de modiste. La Felle de commandant de tour, un nommé Van Repning, écrit le 6 août 41 au préfet du Mans. Il y aurait l'intention de vendre ce magasin à Mademoiselle Dufour. Mademoiselle Dufour n'a cependant pas encore pris possession de ce magasin. Elle est une amie de la propriétaire actuelle et ne possède, ainsi qu'elle l'a déclaré elle-même, aucune connaissance de ce métier. Mademoiselle Dufour veut payer 30 000 francs à Lévy pour reprendre ce magasin. Par ailleurs, il est surprenant que Lévy n'ait pas accepté des offres plus élevées allant jusqu'à 50 000 francs. On ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression que ce projet n'est qu'une vente simulée afin que le magasin revienne par la suite aux Juifs Lévy. Comme il existe à la Flèche toute une série de magasins de cette branche, il n'y a aucune utilité de laisser subsister ce magasin. Dans ces conditions, la vente des marchandises serait seule nécessaire. Sur le courrier, il n'y a pas de formule de politesse. Louis Lévy n'est pas appelé monsieur. Il est un sous-homme. On lui impose un gérant. Il est sous tutelle de l'État, comme les fous, les enfants, les handicapés. Le 30 août, nouveau rapport à la suite d'une réunion avec le gérant Marquis et M. Busson. Ils sont trois à se réunir pour une seule famille. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'une vente fictive. Les marchandises sont vendues à part et le logement et le magasin sont vendus à Madame Auffray. Elle est coiffeuse. Ainsi qu'il a été précisé au cours de l'entretien et qu'il a déjà été communiqué par écrit à la préfecture, le produit de la vente provenant du magasin devra être déposé sur un compte bloqué. C'est comme cela que se termine le courrier adressé à nouveau au préfet. Le 3 septembre 1941, soit 4 jours après, le commerce des Lévy est arianisé. L'immeuble est vendu 7 295 francs à Madame Auffray. Elle s'installe aux 6 grandes rues avec son salon de coiffure. En 1940, le chiffre d'affaires de Louis Lévy était de 289 159 francs. La famille Lévy n'est plus chez elle nulle part. Elle ne possède plus rien, ni logement, ni compte en banque, ni travail. Le magasin du 35 est vendu à la société Printemps, dont le siège social existe encore à Paris. Louis Lévy écrit de son écriture fine et noble au préfet le 13 janvier 1942. « Je vous demande l'autorisation de toucher ces sommes pour subvenir à mes besoins. Recevez l'assurance de ma parfaite considération. » Louis Lévy ne reçoit aucune réponse à sa lettre. Il est réduit à l'état d'enfance, celui qui n'a pas le droit à la parole. Sa lettre est tout de même conservée. Les nazis archivent curieusement presque tout. La famille a déménagé pour le Petit Versailles le 15 septembre 1941, 12 jours après leur éviction de leur logement. Qui les accueille? Est-ce Mademoiselle Dufour? Qui habite dans ce hameau dont il ne reste presque rien aujourd'hui? et sur lequel un collège a été construit. Qui est Mademoiselle Dufour? Où habite-t-elle? Pourquoi n'est-elle pas mariée? En 1965, une certaine Mademoiselle J. Dufour écrit sur les cultures fruitières dans le sud de la Sarthe. Elle étudie le remplacement de terre à vigne par des pommerais, y compris à la flèche. Est-ce que c'est elle? Sandrine veut croire que c'était elle et que Sarah Dufour est sa descendante. Cela ne peut pas être autrement. Il lui faut lutter contre toutes ces personnes qui se sont employées consciencieusement à effacer toute trace des Lévis, afin qu'ils en viennent à disparaître tout seuls de la surface de la terre, qu'il ne reste rien d'eux, pas même des souvenirs. Sandrine avait ouvert, comme le dernier geste d'un désespéré, les archives départementales de la Sarthe en ligne. Elle avait découvert d'abord que les photos de la Grande Rue dataient d'avant 1910. Si on voulait consulter les années suivantes, il fallait se déplacer aux archives. Et puis elle avait consulté le recensement de 1921, puis celui de 1926. En 1926, aux 6 grandes rues, la famille Lévy était là. Sandrine s'était trompée, envahie par le biais xénophobe du juif errant. Louis et Jeanne ne s'étaient jamais comportés comme des rats, sauf lorsqu'ils y avaient été obligés pour survivre. Ils s'étaient installés à la flèche autour de 1926. En 1926, leur fille Louise avait 15 ans, Suzanne 13 ans. Cette famille n'était pas de passage. Aux 6 grandes rues, ils étaient chez eux depuis longtemps. 10 ans plus tard, ils sont toujours là et leurs affaires prospèrent. Ils ont des domestiques. Leur fille se marie. L'une vit à Lille, l'autre à Troyes, où elles ont leur premier enfant qui porte les noms Veille et Canne. Elles sont retournées dans leur ville d'adoption parce que c'est la débâcle et qu'il fait bon vivre à la Flèche, où elles ont vécu jusqu'à leur mariage. À la Flèche, elles sont en sécurité auprès de leurs parents et de leurs amis. Aux 6 grandes rues, elles sont chez elles. Elles ont dit certainement à Monsieur Marquis, le greffier de paix qui les vole, comme le disait la grand-mère de Sandrine, « Comment osez-vous faire ça à une femme française ?» Depuis l'écriture et la publication de mon récit, Yves Moreau a retrouvé une photographie de Louis Lévy et une lettre du préfet qui date de 1945, dans lequel il le convoque aimablement. La lettre se termine par « Mes sentiments dévoués ». Et il l'appelle « Monsieur ». J'espère que mon livre va retrouver les descendants de Lévy. Annie Veille, la fille de Louise Lévy, serait vivante. Claude Canne, né le 7 décembre 1940 à La Flèche, fils de Roger Canne et Suzanne Lévy, serait aussi vivant. J'imagine qu'ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Mon livre a été acheté dans la région de Lille et en Belgique, où toute la famille est partie vivre après-guerre et le décès de Louis Lévy, le 8 décembre 1949, à La Flèche, à 74 ans. J'espère un jour recevoir de leurs nouvelles. J'ai aussi reçu sur les réseaux sociaux un joli témoignage de Ben Ploquin que je vous partage sur les ondes. Ma grand-mère s'appelait Rolanda Seoto, puis Rolanda Ploquin. Elle a été apprentie puis employée chez les Lévy de la fin des années 30 jusqu'au début de l'occupation. Elle y confectionnait des chapeaux. D'après ce qu'elle m'avait raconté, un jour, dans mes souvenirs, vers 41 ou 42, elle s'est présentée au travail et la famille était partie. Il y avait un écriteau sur la porte indiquant « Partie pour une destination inconnue ». Peu après, les boutiques ont été aryanisées et le personnel n'a pas été repris. Cette expérience l'avait beaucoup marquée. Elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans, en 1933. Avec ses parents qui fuyaient l'Italie fasciste. Elle avait 15 ou 16 ans quand elle a commencé à travailler dans le magasin des Lévy. Elle avait eu du mal à trouver un apprentissage à cause de son fort accent italien, et ils ont été les seuls à lui donner sa chance. Elle venait d'un milieu très modeste, et c'est chez eux qu'elle a découvert le goût de la coquetterie. Malheureusement, ma grand-mère est décédée il y a une dizaine d'années. J'aurais aimé pouvoir lui demander d'autres détails. Elle n'a jamais su où la famille Lévy était partie. Selon mon grand-père, Le patron de la civette, à l'époque, possédait des terrains situés tout au nord de la ligne de démarcation et aurait fait passer plusieurs habitants de la Flèche en zone sud. Mais si cela s'est produit en 1943, il n'y avait déjà plus de zone libre à ce moment-là. Peut-être une autre piste. Le père Théomir Deveau, quant à lui, faisait partie d'un réseau financé par la Viso, qui cachait des familles et des enfants juifs dans des fermes sartoises. Ben Ploquin a aussi joint deux photographies de sa grand-mère à la Flèche, datant de l'époque où elle travaillait chez les Lévy. L'une date de juste avant la guerre. Elle a été prise au bord du Loir, au port Luneau. Les vêtements et le chapeau qu'elle porte venaient de chez ses patrons. Sur l'autre photographie, prise en 1941, le chapeau qu'elle porte a été réalisé avec des matériaux et accessoires que les Lévy lui avaient offerts. Ma grand-mère Odette Veil était une fille Lévy. Je n'ai aucun lien de filiation avec les Lévy de la Flèche, mais leur histoire est l'histoire effacée des 75% des Juifs français dont on n'honore pas la mémoire et le courage. C'était ma rencontre avec la spoliation et l'effacement de la famille Lévy à la Flèche.